Je disais Me Too, moi aussi, on va en parler au cours des prochaines minutes. Quoique ce ne soit pas tout 9-9-9, parce que le mouvement avait déjà été lancé en dehors des États-Unis, j'ai nommé Ronald Reagan. Ce dernier, il y a 30 ans maintenant, entre 81 et 87, a innové en imposant un nouveau style qui allait changer pour de bon la façon de communiquer à la Maison-Blanche. Une révolution politico-médiatique qui est le sujet d'un film documentaire intitulé The Reagan Show, qu'on pourra voir bientôt sur nos écrans dans le cadre des rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal. Notre collègue Franck Dessau a recueilli à ce propos les commentaires de trois spécialistes de la politique américaine. John Parizella, ex-délégué du Québec à New York et chroniqueur politique, Pierre Martin, professeur à l'Université de Montréal, et Karine Prémont de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, qui effectue en ce moment même des recherches à la bibliothèque Ronald Reagan en Californie. Alors, une petite mise en garde. On a eu recours à de nombreux extraits d'archives inédites de la Maison-Blanche en anglais, et ça exige une écoute particulièrement attentive.
To be prepared for war is one of the most effectual means of preserving the peace.
Sa grande force, c'était le côté authentique. D'après moi, il a changé la façon qu'un président communiquait avec sa population. C'était foncièrement un homme de télévision.
The Reagan administration will be remembered for majoring in public relations.
Together, we'll make America great again. Thank you very much.
La maîtrise du médium de la télévision et donc de l'image et donc la création d'un scénario autour de sa présidence, de ses discours, c'est quelque chose qui a vraiment marqué une différence avec ses prédécesseurs. Ronald Reagan avait vraiment poussé ça à un niveau beaucoup plus avancé.
Mr. President, thank you very much for letting us come in today.
Pleased to do it, Dave.
You're the only movie actor I know of who ever got elected to a high office. Do you learn anything as an actor that has been useful to you as president?
Well, I'm tempted to say something here, but I'm going to say it.
Go ahead.
There have been times in this office when I've wondered how you could do the job if you hadn't been an actor.
C'est quelqu'un qui a vraiment mis en scène la présidence. C'est quelqu'un qui a toujours à l'esprit le regard du public sur lui et sur ce qu'il fait. Dans toutes ses conférences de presse, dans toutes ses rencontres avec le public, il est toujours dans la construction de cette image présidentielle.
It's been an issue all of Ronald Reagan's career. Whether he's a strong leader able to sell his vision of the future, or whether he's just a salesman with plenty of style and little substance.
Tout au long de sa présidence, maints observateurs ont considéré que Ronald Reagan, en raison de son passé d'acteur de cinéma, n'était qu'une image, sans substance ni contenu. Une perception que partage en partie Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis, à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques.
Ronald Reagan était un président qui était très désengagé de son travail, d'une certaine façon. Il était en représentation quasi constante et il n'était pas tellement dans l'action. Il avait certes de grandes orientations politiques, bien évidemment, qui vont évoluer au fil de sa présidence, mais c'est quelqu'un qui passait très peu de temps à décider, très peu de temps à participer aux rencontres. Et je vous dirais, je suis en train de travailler dans les archives présidentielles de Reagan et ça paraît dans les archives parce qu'il y a très peu de documents qui portent sa griffe, qui mentionnent son nom. Reagan est très peu impliqué. Il a donné beaucoup de pouvoir à ses conseillers, beaucoup de marge de manœuvre. Et ça donnera lieu à toutes sortes de scandales et de débordements, bien sûr. Mais ce n'est pas un président qui a exercé beaucoup de leadership durant sa présidence.
Tell me, you had the experience, Mr. President, at one time of auditioning for film roles. And then when you ran for governor and president, you were auditioning in front of the public for office. Which is more difficult?
Well, I have to say this one is. You not only have to get the part, you have to write the script.
Ronald Reagan ne faisait pas qu'interpréter un rôle à la Maison-Blanche. Il participait aussi à l'écriture du scénario, selon Pierre Martin, directeur de la chaire d'études politiques et économiques américaines de l'Université de Montréal et chercheur au CERIUM.
Il a pu se servir de ce talent, de ses dons de communicateur, pour servir un but politique. Ce n'était pas une personne qui avait aucune idée de ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui avait des principes bien établis. C'est quelqu'un qui avait une idéologie assez solidement ancrée. et qui s'est servi de ses moyens de communication pour faire passer ses principes, cette idéologie.
There is enormous public interest here in the new Soviet leader, Mr. Gorbachev. His picture appeared prominently on the front page of all Moscow papers today.
I want him to fight for peace.
La présidence de Ronald Reagan correspond à la fin de la guerre froide. À partir de 1985, Mikhail Gorbatchev accède à la direction de l'URSS et devient son interlocuteur privilégié, comme l'observe le chroniqueur politique John Parizella.
Monsieur Reagan a réalisé qu'il y avait dans la personne de Monsieur Gorbatchev un partenaire potentiel. Monsieur Gorbatchev est un homme moderne, beaucoup plus jeune que Monsieur Reagan. Mais dans un sens, ils étaient tous les deux, sur le plan des communications, de la même génération. Je n'aurais pas vu une autre période dans l'histoire où ces gens-là auraient pu être autant en symbiose.
In the Gorbachev era, the Soviets have become image conscious. And, leaving nothing to chance, they have hired professional help.
We have a press conference there.
Meet John Kabelik. He is a Washington, D.C. marketing and public relations man. His client is the Soviet government.
Les rencontres au sommet entre Reagan et Gorbatchev donnent lieu à une guerre de l'image et de relations publiques entre les deux leaders, comme l'observe Karine Prémont.
L'objectif, c'était de gagner l'opinion publique occidentale, à la fois pour Gorbatchev et pour Reagan, parce que depuis que Reagan était à la Maison-Blanche, évidemment bien avant ça, on a dépeint l'URSS comme étant un pays qui était fondamentalement menaçant, avec un peuple plutôt belliqueux. Et Ronald Reagan avait même parlé de l'Empire du Mal pour qualifier l'URSS au début de sa présidence. Alors forcément, quand Gorbatchev arrive au pouvoir, ce qu'il veut, c'est remporter cette bataille-là. Et la télévision est parfaite pour ça. Et tous les deux, Reagan et Gorbatchev, maîtrisent bien cet outil qu'est la télévision. Ils vont l'utiliser pour justement gagner la faveur du public. Et justement, on va y aller quand Reagan va décider de se rapprocher de l'URSS. Ben cette guerre de l'image-là va être tout à fait incarnée dans les différents sommets. Et à un moment donné, dans le documentaire, on l'entend, il y a 3500 journalistes du monde entier qui couvrent les sommets. Et ce qu'on veut, c'est justement une histoire qui finit bien. On veut un spectacle, encore une fois. Et Gorbatchev et Reagan vont jouer le jeu. Et quand ils s'invitent mutuellement dans leurs pays respectifs, bien, on met toute la gomme, encore une fois. On le voit, l'URSS, Moscou se refait une beauté. On nettoie les rues, on remet des légumes dans les kiosques pour qu'on ait une meilleure image de ce qui se passe à Moscou. Et c'est tout à fait dans cette optique-là. Et je crois même qu'on a engagé du côté de l'URSS des relationnistes américains, justement pour mieux utiliser cet outil magique qu'était la télévision dans les années 80.
Good evening. It is taking shape as one of the most controversial foreign policy developments of President Reagan's years in office. The reports of a secret White House operation to ship Iran military supplies in exchange for help in freeing three American hostages.
Avec l'Iron Gate, avec cette découverte que les États-Unis vendent des armes à l'Iran et utilisent cet argent pour financer des guérillas contre-révolutionnaires en Amérique latine, bien évidemment, on comprend qu'on est dans l'illégalité. On comprend alors que les conseillers ont pris beaucoup de place et on comprend que Reagan est déconnecté complètement de ce qui se passe. Et même s'il dit je n'étais pas au courant, je suis néanmoins responsable, on sent là que sa présidence vacille à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il va mettre encore plus d'ardeur à travailler sur les relations avec l'URSS, parce que ça fonctionne bien, parce que ça, c'est payant politiquement, parce que ça, c'est bon aussi pour son héritage politique.
Can you repair it? What does it mean for the rest of your presidency?
Well, I imagine I'm the only one around who wants to repair it, and I didn't have anything to do with this damage.
There is a mood in Washington tonight of a president who is very much beleaguered, very much on the defensive.
Le scandale de l'Iron Gate en 1986 allait déclencher une crise majeure, à tel point que plusieurs estimaient que le président Reagan, en fin de mandat, était politiquement condamné. Le chroniqueur politique John Parizella.
Mais encore là, on a vu ses talents de communicateur quand il s'est littéralement excusé pour des failles dans sa propre gestion. Il a géré une situation qui aurait pu amener à sa déchéance ou à son départ, et a réussi à récupérer avec la population. Il est quitté comme un des présidents les plus populaires dans l'histoire.
If anyone tells you that we're just marking time for the next 22 months, the business that I used to be in said, save something for the third act. And we will.
Reagan préparait son dernier coup de théâtre et la scène allait se dérouler devant une foule en liesse à la porte de Brandebourg, à Berlin.
There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, Mr. Gorbachev, tear down this wall.
La politologue Karine Prémont.
Ça, c'est un discours extrêmement fort, extrêmement puissant. Ses conseillers lui avaient dit de ne pas prononcer ce bout de phrase-là pour ne pas risquer justement de heurter Gorbatchev, de ne pas miner les bonnes relations qui est en train de s'établir entre les deux hommes. Et Reagan a dit non, ça prend quelque chose de fort, il faut envoyer un message clair. Et ça a été extrêmement bien reçu.
No presidency before this one was so often judged as if it were a performing art. I shudder when it's suggested that politicians who come after him are going to have to succeed first on television.
Ronald Reagan a fait preuve d'une maestria peu commune sur le plan de la communication politique. 30 ans plus tard, l'actuel président Donald Trump lui aussi se distingue sur ce plan-là. Toutefois, le style et le message diffèrent fondamentalement. Dans un cas, l'énergie et le talent servaient à rassembler, dans l'autre, plutôt à diviser, comme le souligne Karine Prémont de la chaire Raoul Dandurand.
En fait, je pense que Trump est l'héritier de Reagan dans le sens où il contrôle tout à fait le médium de sa génération, de son époque plutôt, c'est-à-dire les médias sociaux, comme Reagan contrôlait la télévision. Mais il y a beaucoup de différences. Reagan contrôlait beaucoup mieux son image, par exemple, que Donald Trump. Reagan utilisait les médias pour établir un lien de confiance, alors que Trump utilise souvent les médias pour intimider, pour insulter, pour écraser ses adversaires de façon assez franche, assez claire. Et je vous dirais qu'il y a une différence aussi dans leur rapport avec les journalistes. Reagan voulait entretenir de bonnes relations, avait besoin des journalistes, considérait qu'ils travaillaient ensemble d'une certaine façon, alors que Trump, lui, ne passe son temps, en fait, à insulter les médias et à dire que, en fait, ce sont des gens de l'establishment qui courent après lui et qui veulent sa perte d'une façon ou d'une autre.
The truth came home to us once again. It isn't people, but governments that make war. The judgment of future generations will be harsh upon us if after so much sacrifice and now at the hour of hope, we falter or fail.
Ronald Reagan et Donald Trump sont en fait les produits de contextes politiques très différents, comme l'observent à leur tour John Parizella et Pierre Martin.
C'est faux de dire que M. Trump est un héritier de M. Reagan. Ce n'est pas le cas. M. Reagan était un idéologue, mais il était flexible dans l'application de son idéologie. M. Trump n'est pas un idéologue, mais il est terriblement imprévisible. Les mois qu'il est au pouvoir, M. Trump, il y a des divisions à l'intérieur de son propre parti. Il contrôle les deux chambres. Et il n'a réussi à passer aucune grande législation, tandis que M. Reagan ne contrôla pas les deux chambres, puis il a réussi à faire des choses qui sont marquantes. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même situation.
Autant Ronald Reagan incarnait l'optimisme et donc la vision d'un avenir brillant, éclairé pour les États-Unis, autant Donald Trump incarne le pessimisme, cette vision d'abord et avant tout négative. C'est aussi le reflet d'une époque. La politique américaine s'est beaucoup polarisée, c'est devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui de communiquer sur ce plan-là, de cette façon-là avec l'opposition. Il y a beaucoup plus de méfiance, il y a beaucoup plus d'animosité. Et donc, l'incitation qu'on peut avoir à tenir ce genre de discours rassembleur comme Ronald Reagan est presque disparue.
I thank my lucky stars to be living here today, because the flag still stands for freedom, and they can't take that away.
C'était un reportage de Franck Dessort et le film documentaire The Reagan Show, dont il était question, de Sierra Pettengill et Paco Vélez sera présenté les 12 et 18 novembre prochains dans le cadre des rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal.